de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver dans notre Voie lactée, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation Destination la nébuleuse d'Orion, la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous, à 1350 années-lumière de la Terre tout de même, dans l'œil du James Webb Télescope, pour observer dans l'infrarouge. C'est une première dans l'histoire de l'humanité, comment se forment les étoiles et les planètes. Autour de la question que nous raconte la nébuleuse d'Orion sur nos origines, sur la naissance de notre Soleil et de ses planètes, voire sur l'émergence de la vie, puisque nous sommes toutes et tous des poussières d'étoiles, piste de réponse aussi sidérale que sidérante de notre invité, l'astrophysicien Olivier Bernet, l'un des responsables du programme international d'observation de la nébuleuse d'Orion par le James Webb Télescope, qui a déjà collecté une moisson de données et d'images aussi inédites que vertigineuses. Olivier Bernet est l'auteur aux éditions d'Uno de Destination Orion, voyage à bord du James Webb Télescope. Bienvenue pour voir ensemble toujours plus loin et plus précisément dans l'espace comme dans le temps.
Le 23 mars 1895, il y a un astronome qui s'appelle Ed Barnard. Il dit « J'ai vu un trou dans le ciel ». En fait, William Herschel l'avait vu avant lui. Il se dit « C'est un trou vide d'étoiles ». Ce qu'il ne savait pas, c'était que c'était exactement l'inverse. Il était face à une maternité d'étoiles, une pouponnière d'étoiles, un nuage en train de donner naissance à des étoiles. Et quand on rentre dedans, grâce à l'infrarouge, on voit les veines à l'intérieur de ce cœur dans lequel naissent les étoiles, qui sont de véritables rivières célestes, qui ressemblent d'ailleurs au Nil vu du ciel, qui féconde le désert dans l'Égypte ancienne. Et là, c'est les rivières célestes qui fécondent l'espace, le désert cosmique, en donnant naissance à des étoiles. Ce sont dans ces petites rivières que naissent les étoiles. Et ça, ça a été effectivement une des découvertes dans l'infrarouge.
C'est dans les petites rivières célestes que naissent les étoiles. Voilà bien une des découvertes fabuleuses, et il y en a bien d'autres que vous allez partager avec nous. Olivier Bernet, bonjour.
Bonjour.
On a tous été éblouis par ces images vertigineuses, astronomiques, à tous les sens du terme, mais aussi poétiques, mythiques, voire mystiques, hein, comme vient de nous le rappeler David Elbaz, autre formidable astrophysicien français investi dans la mission James Webb. Est-ce que vous, vous vous attendiez, Olivier Bernet, vous êtes spécialiste de la nébuleuse d'Orion, à des révélations pareilles? Je rappelle tout de même que vous participez à la mission James Webb de la NASA depuis 2015, donc quelques six ans avant son lancement en 2021. Et que vous êtes un des responsables, Olivier, du programme d'observation internationale de la nébuleuse d'Orion. Vous vous attendiez à des révélations et à des images pareilles?
On s'attendait à des surprises, et on en a eu beaucoup. Et on s'attendait aussi à être ébloui par les images de James Webb, et on l'a été. Mais je ne pense pas me tromper en disant que la majorité des membres de la communauté sont quand même stupéfait par la moisson à la fois d'images, de données, de résultats scientifiques.
Sur lesquels vous travaillez, à partir desquels vous faites des découvertes sans cesse. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, alors, parmi toutes ces images, celles, comment dire, moi j'ai envie de dire mythique, presque biblique, qui fait d'ailleurs la couverture de votre ouvrage, aux éditions d'Uno, c'est celle de cette nébuleuse d'Orion. Alors comment est-ce qu'on peut la décrire? Espèce de nuage dans une voie lactée mythique.
Oui, alors il y a une petite subtilité, c'est que j'ai fait un piège sur la couverture du livre. Ce n'est pas la nébuleuse d'Orion.
Je suis tombée
dedans. C'est vrai qu'il y a un piège, moi j'avoue.
Ce sont les piliers de la création.
Exactement, ouais, ce sont les piliers de la création.
Encore plus biblique.
Qui sont et précisément bibliques, puisque le nom Les Piliers de la Création est une référence à un sermon. Donc il y a une vraie référence biblique. Et de toute façon, de tout temps, les humains ont mis dans le ciel leur divinité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très courant. Et donc, ces piliers de la création, comme la nébuleuse d'Orion, sont une pouponnière d'étoiles. C'est ce dont parlait aussi David Elbaz en introduction de manière très poétique. Ce sont donc ces environnements qui donnent naissance aux étoiles et autour de ces étoiles, aux planètes.
Et alors, vous êtes vous-même spécialiste de cette nébuleuse d'Orion. David Elbaz nous l'a dit, donc maternité pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. Enfin, c'est tout de même à 1350 années-lumière. C'est dans ces nuages de gaz, de poussière, que naissent les étoiles.
Oui, c'est à la convergence de ces rivières, dont parlait aussi David Elbaz, que vraiment les cœurs se forment. Ce sont donc des étoiles, on appelle ça des proto-étoiles, donc ce sont des bébés étoiles qui ont quelques centaines ou milliers d'années. Et autour de ces étoiles, on va former ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. Et c'est à l'intérieur de ce disque que se forment ensuite les planètes, autour de ces étoiles.
À l'intérieur de ce disque, et donc grâce au James Webb Télescope, on va y revenir, mais grâce à sa vision dans l'infrarouge, vous pouvez observer de très près ces disques à 1300 années-lumière de nous.
Précisément, c'est ça qui est la grande force de James Webb, c'est que, comme son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, qui a aussi beaucoup fait parler de lui, il continue de faire parler de lui 30 ans après avoir été lancé dans l'espace, eh bien, il permet d'avoir des images avec une très très grande finesse, beaucoup de détails, mais en plus de ça, il est capable de sonder vraiment très profondément ce qui se passe précisément autour de ces étoiles en formation pour aller regarder quasiment la formation des planètes presque en direct. Et donc, on arrive à observer quasiment directement la formation de planètes autour d'étoiles grâce à James Webb.
Et donc, on arrive à extrapoler aussi, à essayer de comprendre comment notre étoile à nous, le Soleil, s'est formée et comment les planètes de notre système solaire se sont formées. C'est vraiment ça.
Oui, l'observation de ces pouponnières d'étoiles, c'est une manière de remonter dans le temps par analogie, c'est-à-dire que les étoiles dans ces pouponnières, elles ont quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, et ça, c'est à comparer au système solaire actuel qui, lui, a plutôt 4,5 ou plus milliards d'années. Donc, c'est comme si on observait vraiment des embryons de systèmes planétaires. Et donc, voilà, par analogie, on peut essayer d'apprendre des choses sur nos propres origines. Mais évidemment, on ne sait pas si c'était exactement pareil au moment où le système solaire s'est formé. Mais c'est les seules informations qu'on peut avoir. Elles sont évidemment indirectes.
Et c'est de là qu'est venu votre intérêt à vous, en tant qu'astrophysicien, pour cette nébuleuse d'Orion, parce que justement, on pouvait assister en direct à la naissance d'étoiles ou à des embryons d'étoiles.
Moi, je vais vous dire, finalement, la science, c'est quelque chose de très rationnel. Ce qui nous guide vers une thématique ou vers la science, c'est plutôt quelque chose qui vient du cœur. Et moi, j'ai toujours été vraiment séduit par ces images de pouponnières d'étoiles. Et je dirais que c'est plus ça, finalement, qui m'a amené à travailler sur ces objets. Plutôt un côté esthétique et pas tellement un questionnement scientifique. Alors évidemment, je suis très content aujourd'hui de travailler sur ces questions. Mais voilà, au départ, c'est plus une séduction, je dirais, sur le plan esthétique.
Ah, c'est ça, c'est magnifique, de toute façon, ces pouponnières d'étoiles. Et alors, on l'a dit, moisson de découvertes, de photos, d'images, et moisson de découvertes pour vous aussi, Olivier Bernet, en étudiant la nébuleuse d'Orion, grâce au James Webb Télescope, en regardant jusque dans l'infrarouge, vous avez découvert un des ingrédients majeurs nécessaires à la vie, qui est déjà dans ces disques planétaires.
Oui, il faut peut-être revenir à la question à laquelle on essaie de répondre. C'est la question des origines, et en particulier des origines de la vie. Ça, c'est la grande question.
C'est ça. Donc, la muse d'Orion peut nous révéler la question des origines des étoiles, des planètes et donc de la vie.
En partie, et en tout cas, ce sont les étapes les plus précoces dans la formation donc, d'un système qui peut abriter la vie, et aussi les étapes les plus précoces de la chimie qui peut ensuite donner naissance à une activité biologique. Donc, encore une fois, ce sont les étapes les plus précoces. Mais voilà, la question, c'est comment on organise les atomes qui sont fabriqués dans le Big Bang, le carbone, l'hydrogène, le soufre, etc. Comment on organise ces atomes ou formé dans les étoiles, tout n'est pas formé au moment du Big Bang. Comment on organise ces atomes pour fabriquer des choses plus complexes qu'on appelle des molécules, et comment ces molécules ensuite peuvent aussi être assemblées ensemble pour former des cellules, etc. La vie repose sur la chimie organique, c'est-à-dire celle qui contient du carbone. Donc comprendre les toutes premières étapes qui permettent de fabriquer les molécules les plus simples contenant du carbone est quelque chose qui nous intéresse. Et donc, grâce à James Webb, on a pu étudier une de ces phases très précoces qui est comment se forme une des premières molécules qui contient du carbone. Et c'est ce fameux méthylium qu'on a observé pour la première fois dans l'espace grâce à James Webb.
Qu'est-ce que ça fait quand on est un astrophysicien comme vous, Olivier Bernet, qu'on travaille sur la nébuleuse d'Orion et que d'un seul coup, on détecte grâce au James Webb télescope une molécule, le méthylium, le cation méthyle, qui est une des briques de la vie? Qu'est-ce que ça fait? Ça arrive pas souvent dans la carrière d'un astrophysicien de détecter une molécule pareille.
Non, ça arrive vraiment pas souvent. La première réaction, pour être tout à fait honnête, c'est une réaction d'incompréhension. Parce que quand on a vu le signal à partir duquel on a réussi à détecter cette molécule, on ne l'a pas compris dans un premier temps. Donc il a fallu vraiment qu'on travaille assez longtemps en collaboration avec des physiciens, des chimistes, pour comprendre ce qu'on voyait dans nos données. Donc ça a pris un certain temps. Et puis on a eu la réponse définitive. Et c'est vrai qu'au moment où on a la certitude d'avoir compris quelque chose et de voir quelque chose que personne n'avait vu avant, et que c'était aussi quelque chose que les gens cherchaient depuis des dizaines et des dizaines d'années, effectivement, il y a une très grande satisfaction. C'est un moment où, voilà, où les émotions prennent le dessus sur l'aspect rationnel de l'exercice scientifique. Et c'est un moment qu'on a partagé avec de nombreux collègues. Et c'était, voilà, évidemment, un moment rare dans une carrière.
Autour de la question, jusqu'où nous entraînera l'œil infrarouge du James Webb Télescope dans cette pouponnière d'étoiles et sur les traces de ces molécules briques, premiers ingrédients de la vie, dans la nébuleuse d'Orion? Nouvelle question pour vous, soulevée par mon confrère de Sciences et Avenir, Fabrice Nicot.
La découverte du méthylcation est très importante puisque c'est une molécule qu'on cherchait depuis 50 ans, qui était un peu la brique élémentaire pour faire de la chimie organique. Et est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des briques à découvrir de cette importance, ce qui serait peut-être permis par le James Webb?
Votre réponse, Olivier Bernet.
Ah, c'est une vaste question. Il y a encore évidemment énormément de choses à découvrir. Et sur ces questions des briques élémentaires, ce qui nous intéresse peut-être, ça va être des molécules qui sont plus complexes, qui vont ressembler à ce qu'on trouve effectivement dans le vivant sur Terre. Par exemple, on recherche depuis longtemps la présence d'acides aminés dans l'espace. Et c'est quelque chose qui a toujours été très difficile à faire. Il y a des collègues qui prétendent avoir détecté de tels acides aminés grâce à un ancien télescope infrarouge qui était un des prédécesseurs de James Webb. Ce télescope s'appelait Spitzer, mais on n'a pas de confirmation de ça. Peut-être que le James Webb arrivera à apporter cette confirmation de la présence de ces fameux acides aminés qui sont pour le coup vraiment des briques élémentaires de fabrication de la vie. Le méthylium est une étape, je dirais, en amont. C'est vraiment une des toutes premières étapes.
C'est ça. Alors qu'en fait, ces acides aminés, pour vrai qu'il peut y avoir de la vie ailleurs que sur Terre, dans l'espace et dans ces formations d'étoiles et de planètes.
Ce que ça prouverait, c'est que finalement, la complexité qui mène à la vie, elle débute très tôt. Très en amont de la formation des planètes, par exemple. Ça voudrait dire que, d'ailleurs, peut-être que la vie pourrait exister ailleurs que sur des planètes, sait-on jamais. On n'a pas de certitude absolue que la vie n'existe que sur des planètes. Mais pour l'instant, la certitude qu'on a, c'est qu'on n'a pas observé de vie ailleurs. Donc, on ne peut pas dire grand-chose. Mais il faut rester très ouvert. On a toujours énormément de surprises quand on fait de la recherche scientifique. Nous, on ne recherchait pas ce méthylium, par exemple. On est tombé dessus un peu par hasard. On cherchait d'autres molécules, donc on n'était pas quand même complètement hors
Vous
sujet.
Vous cherchiez quoi avec le James Webb Télescope?
On cherchait déjà à comprendre la physique avant de comprendre la chimie. Et puis, si on cherchait des molécules, on cherchait plutôt des grandes molécules. Parce que ces grandes molécules, elles ont des vibrations dans l'infrarouge qui sont facilement détectables avec le James Webb. On en a repéré certaines. Par exemple, il y a une molécule qui s'appelle OH, qu'on avait déjà détectée avant et qu'on a pu observer grâce à James Webb dans ces disques protoplanétaires. Mais voilà, on cherchait plutôt des molécules assez standards et pas du tout celles-là. Donc ça a été une très grande surprise de voir ce méthylium. D'ailleurs, comme je vous disais, on n'a pas compris au début ce qu'on voyait.
C'est étonnant quand même. C'est-à-dire aussi qu'il faut garder l'esprit extrêmement ouvert et être prêt à tout, en fait. Parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre grâce à l'infrarouge. On va y venir dans quelques instants. Grâce à l'infrarouge, justement, vous ne savez pas jusqu'où, précisément, vont vous entraîner vos recherches et les images et les données du James Webb.
Quand on a un nouvel instrument, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Quand Galilée a pris sa lunette et qu'il a observé la Lune, il a vu des détails à la surface de la Lune que personne n'avait pu voir avant. Donc, si vous voulez, c'est comme débarquer sur une terra incognita. On découvre des choses et dans le premier temps, on ne comprend pas tellement de quoi il s'agit. Donc vraiment, il y a cette idée qu'il y a quand même une aventure là-dedans et il faut défricher ce qu'on observe, c'est pas du tout évident quand on observe la nébuleuse d'Orion, par exemple, de comprendre ce qui s'y passe immédiatement.
Et rappelons aussi qu'on peut l'observer à l'œil nu pour sa partie la plus lumineuse et qu'on peut observer la nébuleuse d'Orion avec une lunette astronomique, avec un télescope. Elle est observable, hein, cette nébuleuse dans la Voie lactée.
Oui, elle est observable relativement facilement, surtout en hiver. C'est là qu'on la voit le mieux, dans l'hémisphère nord. Même avec effectivement un télescope ou une lunette pas forcément aussi grand que James Webb, on peut la voir très très bien. Évidemment, on ne verra pas toutes ces couleurs extraordinaires, mais on peut voir déjà des détails de cette nébuleuse. Oui.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera la nébuleuse d'Orion et l'œil infrarouge du James Webb télescope, on continue de percer quelques-uns des plus grands mystères de l'univers carrément, à commencer par la naissance des étoiles et des planètes dans la nébuleuse d'Orion, chantée dès la fin des années 70 par le groupe britannique Jethro Tull. Orion sur RFI.
From the black horizon to the pillow where I lie, your faithful dog shines brighter than its lord and master. Your jeweled sword twinkles as the world rolls by. So come up singing above the cloudy cover, step through the people who watch me. His toes on old back blankets lying in the street. Orion, oh, won't you give me a star sign? Orion, get up on the skyline. Orion, the mile and the field line. Orion, let's hit the head. Silver shadows lick across the closing bistro. Sweet waiters link their arms and patter down the street. Their words were blowing on cold winds in darkest Chelsea. Prime years lie fading with each young heart's beat. Orion, won't you make me a star?
Avec le groupe Jethro Tull sur RFI, destination Orion, et nous en français on dit Orion. Oh, destination Orion, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, Olivier Bernet, paru aux éditions Duno. Voyage à bord du James Webb télescope autour de la question que nous raconte la nébuleuse d'Orion sur nos origines. On l'a dit, c'est grâce à la caméra infrarouge embarquée sur le télescope James Webb que l'on peut voir pour la première fois tout de même dans l'histoire de l'humanité aussi loin, aussi précisément dans la Voie lactée, comment naissent les étoiles et les planètes. Je propose donc un gros plan sur cet imageur MIRI, la caméra infrarouge du James Webb, instrument français construit au CEA. On écoute l'astrophysicienne Ashreen Direk, que vous connaissez d'ailleurs, hein, Olivier Bernet, et qui a participé à la construction de MIRI. Elle nous présente l'instrument MIRI et a même une question pour vous à suivre.
MIRI est à la forme d'une grosse boîte dans laquelle on a toute l'optique qui va collecter la lumière, la roue à filtre qui va permettre de choisir la gamme de longueur d'onde souhaitée et le détecteur qui va convertir ces photons qu'on reçoit, la lumière qu'on reçoit, en signal électronique. Une roue à filtre, c'est une roue qui tourne, sur laquelle sont montés des filtres. Donc, c'est comme si vous portiez des lunettes colorées, des vitres teintées. Quand on met des lunettes de soleil, on voit la lumière qui nous arrive avec une certaine teinte en général un peu dorée ou un peu brune. Ben là, c'est la même idée. Donc, on va mettre un filtre qui va un peu changer la couleur, qui va sélectionner certaines couleurs en particulier. Dans notre cas, on ne parle pas de couleurs puisqu'on n'est pas dans le visible. Donc, on va parler d'infrarouge, donc de bandes spectrales en infrarouge. Mais c'est la même idée. Vous avez sélectionné une gamme donnée et vous voyez le monde en teinté, dans la teinte qui vous intéresse, qui est l'infrarouge moyen. Et donc, tout ça, c'est une grosse boîte qui doit faire une vingtaine de centimètres par 30 centimètres. Donc, c'est quand même assez gros. En tout cas, c'est bien plus gros que nos appareils photo et nos téléphones, mais il faut au moins ça pour aller observer la lumière de l'espace.
Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité Olivier Bernet ?
J'ai vu le lancement du James Webb et c'était un moment extraordinaire et je pense que c'est gravé à vie. Est-ce que vous aussi, ça vous a provoqué des sensations incroyables de voir le James Webb partir ? Et comment est-ce que vous vivez cette abondance de données très riches qu'on reçoit en permanence et qui est juste incroyable ?
Je vous laisse répondre à la question d'Ashren Direk, qui était interrogée par notre reporter Sybille Bulou, Olivier Bernet. Alors, oui, au moment du lancement du James Webb télescope, première partie de la question d'Ashren, c'était quoi le sentiment ?
Ah, j'étais glacé, complètement glacé.
Vous travaillez dessus depuis 2015, depuis 6 ans.
Hein. Environ, on préparait la mission depuis les observations depuis 2015. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis donc en France, c'est le jour de Noël en plus, il faut s'en souvenir. Donc, j'étais en famille, je regarde NASA TV avec la famille, le lancement. Donc c'est une grande fête plutôt pour la famille, mais moi je suis vraiment glacé parce que tout se joue à ce moment-là sur ces 30 secondes de mise à feu, et donc c'est vraiment un très gros coup de poker pour moi, et voilà, je l'ai revu après et avec plus d'émotion, mais là vraiment j'étais complètement figé. Voilà.
Et c'est ça, être sûr que ça parte bien. Et alors, du coup, maintenant, maintenant avec toutes les données, toutes les images qu'on reçoit, cette moisson complètement insensée hein, de données que renvoie le James Webb télescope, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Alors, vous avez trouvé le méthylium. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Il va y avoir, on est sous embargo, on ne peut pas en parler, mais il va y avoir une grosse parution dans Science qui va sortir d'après les données que vous avez, sur lesquelles vous travaillez, Olivier Bernet. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette énorme moisson de données ?
Alors, les données, elles nous parviennent... Le télescope les envoie tous les jours, en fait, hein, sur
c'est
Terre.
Ça, hein.
Et donc, on les récolte. Elles arrivent à Baltimore, aux États-Unis. Puis, elles sont transmises hein, par voie numérique aux différents scientifiques. Et on passe beaucoup de temps à les analyser. Et ça demande souvent, c'est des durées de temps hein, qui sont de l'ordre du mois, voire des années. Pour une observation d'Orion comme la nôtre, il y a clairement des dizaines d'années de travail. Qui sont possibles, tellement il y a d'informations.
À partir d'une donnée
Oui, ben, je dirais, par exemple, pour Orion, on a fait 40 heures d'observation. Ça, c'est le temps total de télescopes qu'on a utilisé pour faire nos observations.
Sur la nébuleuse Orion,
Sur cette pouponnière d'étoiles. Ces 40 heures-là, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on travaille dessus avec une équipe de 30-40 personnes à plein temps, si vous voulez. Et ça va continuer encore pendant des années. Donc les durées d'analyse sont très très longues. De toute façon, le temps de la science est un temps qui est très très long. C'est pour ça, d'ailleurs, des fois, que c'est compliqué de discuter avec le monde politique.
Bien sûr, oui. Le monde politique, il ne vous entend pas toujours assez ou pas comme il faut. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui vous, jusqu'à maintenant... Alors, je sais qu'on ne peut pas parler d'une prochaine parution dans Science, parce que ça va être le 1er mars, c'est sous embargo. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué, peut-être, Olivier Bernet, dans tout ce que vous avez recueilli et ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui avec vos équipes ?
Oh, bah, c'est vraiment ce que je cherchais dans cette mission, c'était des grandes surprises. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on a eu, nous, dans le cadre de notre projet, mais je dirais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, une autre équipe dans la nébuleuse d'Orion a découvert la présence de ce qu'on pourrait appeler de planètes errantes. C'est-à-dire ce sont des planètes qui n'ont pas d'étoiles, qui se promènent comme ça dans le vide cosmique.
Ça existe.
Et on est en train d'essayer de les caractériser, nous, justement, aussi, pour prendre la suite de cette découverte des collègues, essayer de comprendre quelle est leur nature. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes sans soleil ? On n'en sait rien, pourquoi pas. Mais voilà, donc c'est des découvertes comme ça, il y en a presque toutes les semaines avec James Webb. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que voilà, c'est tout ce travail des ingénieurs, des techniciens qui qui donc ont conçu tout ça depuis les années 90.
Oui, eh bien, c'est très long de monter une mission pareille.
Oui, c'est ça, il faut peut-être insister là-dessus. Ça fait vraiment des décennies qu'on prépare ce projet. Et donc tout ce travail accumulé sur des décennies, aujourd'hui, il permet de faire ces récoltes et ces découvertes extraordinaires.
Et d'ouvrir un champ de recherche considérable et de nous faire partager donc à nous, grand public, ces images. Alors j'ai devant mes yeux, puisque je m'étais trompée, c'est pas la couverture, mais j'ai dans mes yeux l'image colorisée, la première de la nébuleuse d'Orion. Je ne sais même pas comment la décrire. Des nuages, des étoiles, la Voie lactée, des images absolument fabuleuses que l'on peut voir depuis 2022, mais qui suscitent quelques questions que va vous poser tout de suite une physicienne qui était récemment notre invitée, Séverine Martranchard. On l'écoute.
Bonjour, je me posais une petite question au niveau de la transmission. Donc les images du James Webb, elles sont produites en infrarouge et on montre au grand public des images absolument magnifiques, je pense au pilier de la création par exemple, mais qui sont des fausses couleurs en fait. Et je me demandais si vous étiez interrogée là-dessus, sur ce que pouvait penser le public, si ça pouvait induire des erreurs de représentation ou si tout simplement on doit se contenter de ces images sublimes.
Qu'en pensez-vous, Olivier Bernet? C'est vrai que ça, à la fois ces images, les piliers de la création en couverture, la nébuleuse d'Orion dans votre ouvrage sont extraordinaires et nous remuent tous et esthétiquement elles sont magnifiques, mais elles sont pas fausses, mais elles sont pas vraies non plus.
Elles sont codées, on va dire.
Ah, c'est ça.
On utilise un code couleur. Tout à l'heure, on parlait des filtres de Miri. Donc, on récolte la lumière dans différentes couleurs. En l'occurrence, c'est pas de la lumière visible, qu'on pourrait voir avec nos yeux, qu'on récolte, c'est la lumière infrarouge. Donc cette lumière-là, on ne pourrait pas la voir avec nos yeux, mais James Webb peut la récolter. Et ensuite, on recode chacun des filtres de l'infrarouge qu'on a obtenu avec différentes couleurs, mais là, des couleurs que l'on peut voir avec nos yeux.
Donc c'est juste
une transcription, une traduction.
C'est une traduction.
Exactement. Mmh. Et d'ailleurs, si vous voulez, évidemment, quand il y a une traduction, il peut y avoir une perte d'information. Mmh. C'est le fameux lost in translation. Donc peut-être qu'on perd un peu d'information, mais néanmoins, il en reste quand même beaucoup à l'arrivée et elle n'est pas distordue. Ça reste quand même une vraie information pour la majorité. Et donc c'est ça que permettent ces colorisations avec James Webb. Et donc c'est important de dire que parce que ce mot « fausse couleur », il prête un peu à confusion.
Oui.
On a l'impression que c'est truqué.
C'est ça, c'est pas truqué. Et ça vous sert à vous aussi, vous, grâce
Bien
à ce code couleur, vous travaillez sur ces images magnifiques.
Oui, alors elles nous servent à comprendre l'environnement. Donc ça nous donne une idée très générale de l'environnement d'Orion. Et ça nous permet parfois de voir certains petits objets qui sont présents, une toute petite étoile ou un disque protoplanétaire qui se cache. Avec ce codage couleur, on voit des choses apparaître. Donc ça nous aide à naviguer dans l'environnement dans lequel on travaille, comme une sorte de grande carte. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de trucage. C'est une réalité du monde telle qu'on peut l'observer. Et je pense qu'elles sont importantes, ces images, parce qu'elles soutiennent aussi, par leur esthétique, le message scientifique qu'on souhaite faire passer aussi à cette occasion.
Je suis bien d'accord. Et voilà pourquoi vous avez consacré un cahier entier, magnifique d'ailleurs, dans cet ouvrage Destination Orion, Voyage à bord du James Webb Télescope aux éditions du Nom, un cahier magnifique à toutes ces images. Autour de la question que nous raconte la nébuleuse d'Orion sur nos origines, sur la formation, la naissance des étoiles, comme notre Soleil, celle des planètes, comme la Terre. Nouvelle question pour vous, soulevée par un autre génial planétologue, spécialiste de Mars, lui, qui était récemment notre invité, c'est François Forget, on l'écoute.
Bonjour Olivier, j'ai une question au sujet de la nébuleuse d'Orion et de d'autres objets de ce genre-là, c'est-à-dire les pouponnières d'étoiles, les lieux où se forment des étoiles. J'ai compris maintenant, et ça fait des images magnifiques, que tous ces nuages de poussière et de gaz sont sculptés par le rayonnement très fort de très grosses étoiles qui se forment en premier. Et ma question, c'est, est-ce que l'on aurait pu envisager qu'à cause de la formation de ces étoiles énormes, la formation des planètes autour des autres étoiles, comme le Soleil est plus petit, ait été empêchée par le souffle, tout le rayonnement intense venu de ces grosses étoiles? Est-ce qu'on aurait pu imaginer que, finalement, les planètes comme la Terre soient exceptionnelles parce que, ailleurs, autour de la plupart des autres étoiles, eh bien, la matière est soufflée et ne peut jamais se condenser? On sait maintenant qu'il y a des planètes partout, donc la réponse est non. Mais est-ce qu'on aurait dû, rétrospectivement, craindre le fait que les planètes sont très rares?
Que pouvez-vous répondre à cette magnifique question costaud hein, de François Forget, Olivier Bernet ?
Ah, costaud, là, on est sur vraiment du top niveau. C'est effectivement précisément les questions qu'on se pose actuellement dans le cadre de nos recherches avec James Webb. Je vais peut-être répondre en disant quelque chose d'assez général pour commencer, qui est que quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, et c'est ce que disait François Forget, c'est le rôle que jouent les voisins, ces fameuses étoiles très massives qui sculptent l'ensemble de l'environnement. On a des traces dans les météorites du fait qu'au moment où le système solaire s'est formé, il y avait probablement une ou plusieurs étoiles très très massives, non loin de chez nous.
Massive, ça veut dire mais monstrueusement massive. Hein,
massive, alors ça veut surtout dire qu'elles sont monstrueusement lumineuses. Ça veut dire que leur luminosité, c'est 100 000 fois la luminosité du Soleil. Donc il faut imaginer que ça serait un petit peu comme sur Tatooine, la planète de Star Wars. On aurait deux soleils dans le ciel, notre Soleil habituel, et cette étoile massive qui nous irradierait de rayonnements ultraviolets. On sait qu'elle était là, cette étoile massive, au moment de la formation du système solaire, parce qu'on voit des traces chimiques de sa présence dans les météorites, mais elle a disparu parce que ces étoiles ne vivent que quelques millions d'années. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'a pas joué un très grand rôle dans ce qui s'est passé au moment où le système solaire est né. Et justement, en observant Orion, où il y a des étoiles massives actuellement qui sculptent tout l'environnement et qui soufflent en effet tout le gaz qui se trouve autour des étoiles en formation, eh bien, on peut vraiment observer ces mécanismes-là et voir quels sont les effets. Alors, je vous laisse patienter jusqu'à la fin de la semaine pour avoir plus de réponses.
C'est ça, jusqu'au 1er mars, on aura plus de réponses. Ça va même faire, allez, on va jusque-là, la couverture de la prestigieuse revue scientifique Science, mais on n'en dit pas plus, c'est sous embargo, on n'a pas le droit. Mais vous avez avancé sur cette question qui en soulève aussi d'autres, évidemment, parce que François Forget dit, du coup, on pourrait se dire, est-ce que finalement des planètes comme la Terre sont exceptionnelles ? Est-ce que finalement des planètes qui abrite la vie. Est-ce que la Terre est exceptionnelle ? Parce que là encore, on a commencé notre question tourne autour des origines. Là encore, vos recherches sur ces pouponnières d'étoiles, sur la nébuleuse d'Orion, avec le James Webb télescope, de plus en plus loin dans le temps comme dans l'espace, nous ramènent à cette question. Est-ce que la Terre est exceptionnelle ? Est-ce que la Terre et la vie sont exceptionnelles ?
Je pense que la question de ce qui est exceptionnel, c'est une vision assez anthropocentrique
D'accord,
des choses.
D'accord, c'est nous qui disons
oui,
ça.
Oui, par contre, ce qu'on peut dire, en tout cas de mon point de vue, ce qu'on observe, y compris avec James Webb, c'est la diversité. C'est qu'il y a dans l'univers une très très grande diversité de choses. Il y a des planètes qui n'ont pas d'étoiles, il y a des planètes qui sont très très proches de leur étoile, des petites, des grosses planètes, il y a tout. Il y a vraiment une diversité extraordinaire. Et donc, dans cette diversité, eh bien, je pense qu'il y a une infinité de découvertes qui sont possibles. Et la question de la vie, évidemment, est une question qui nous anime beaucoup. Et je dirais que peut-être ce qui se passe avec James Webb aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans la communauté scientifique. C'est-à-dire que la question de savoir si on va peut-être découvrir la vie ailleurs n'est plus considéré comme de la science-fiction, mais comme une véritable question scientifique.
C'est ça, ça fait partie des questions scientifiques aujourd'hui.
On rigole un petit peu moins du fait que peut-être on pourra découvrir la vie avec un télescope comme James Webb. Moi, j'en ai pas la certitude, mais c'est un débat qui est en train de s'ouvrir au sein de la communauté scientifique.
Et qu'on va ouvrir, nous d'ailleurs aussi, dans quelques instants, juste après nous être interrogés sur la danse cosmique des étoiles et des planètes, mais en musique cette fois-ci, avec T-Rex et son célèbre Cosmic Dancer sur RFI, que l'on vous dédie. Je ne sais pas si vous êtes un danseur cosmique, que vous êtes un enquêteur cosmique, Olivier Bernet.
Enquêteur, oui.
Enquêteur, hein, c'est pour vous. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was Cosmic Dancer de T-Rex sur RFI. C'est pour vous, on l'a dit, Olivier Bernet, notre enquêteur cosmique grâce à l'œil infrarouge du James Webb Télescope. Votre dernier ouvrage d'ailleurs partage votre quête astronomique autour de la question que nous raconte la nébuleuse d'Orion sur nos origines, sur celle des étoiles, des planètes, de notre voie lactée, voire même sur celle de la vie. Voilà, on y est à la question, la grande question que soulève pour nous l'astrophysicien, encore un autre, Patrick Michel, qui était récemment notre invité, on l'écoute.
Bonjour Olivier, est-ce que le James Webb saura nous dire si une autre planète accueille la vie ?
Et voilà, que pouvez-vous répondre à cette question insoluble, immense, immense question, qui, vous l'avez dit Olivier Bernet, agite aujourd'hui la communauté scientifique, c'est plus de la science-fiction.
Oui. Oui, tout à fait, il y a eu un débat récemment sur la détection d'une molécule qui en anglais s'appelle diméthylsulfide, donc c'est une molécule qui contient du carbone, du soufre, et qui a la particularité sur Terre de n'être produite que par l'activité biologique. Le fait de l'avoir détectée ailleurs pourrait indiquer qu'elle est aussi là-bas produite par l'activité biologique. Bon, évidemment, il y a beaucoup de raccourcis dans tout ça. En plus, la détection elle-même de la molécule est très contestée.
C'est ça. Est-ce que c'est contaminé ?
Est-ce que le signal, il est vraiment... On le voit bien. Moi, j'en suis pas sûr. Les collègues avec qui j'en ai discuté, ont des doutes. Bref, on est très loin de la conclusion, mais voilà, c'est un débat qui commence à animer la communauté scientifique concrètement.
Et le James Webb, enfin son œil infrarouge, sa caméra Miri, pourrait le découvrir, ça ?
Oui, là, par exemple, sur notre travail concernant le méthylium, on a utilisé l'instrument Miri.
Donc cette molécule que vous avez découvert dans la nébuleuse d'Orion.
Voilà. Donc on peut utiliser effectivement un instrument comme Miri pour essayer d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des molécules présentes dans l'atmosphère de planètes extrasolaires qui indiquerait la présence de vie. Mais de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que la question de savoir si oui ou non on a identifié la vie quelque part va être un débat très, 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 très long. Et il sera tranché, je pense, après voilà, quelque chose, un processus qui va durer probablement des dizaines d'années.
C'est ça, parce qu'aujourd'hui, enfin, pour le faire très simple, cette question de la vie ailleurs dans l'univers n'est plus une question uniquement de science-fiction, c'est une question sérieuse soulevée dans la communauté scientifique. Mais cette communauté scientifique, elle est aussi partagée en ce moment parce qu'il y en a, comme Jean-Pierre Bibring, par exemple, grand astrophysicien, qui disent « oui, mais la Terre et la vie ont coévolué ensemble et sont liées. Donc, il n'y a peut-être pas d'autres planètes qui hébergent la vie dans l'univers. » Et puis d'autres, l'astrophysicienne ou l'exobiologiste Nathalie Cabrol du centre SETI, qui dit, elle, mais si, sur le nombre incroyable de planètes, exoplanètes qu'on a découvert, il y aura de la vie. On a l'impression que tout est remis sur la table en ce moment dans la communauté scientifique. Vous en êtes où, vous, Olivier Bernet ?
Moi, je pense que, déjà, il me semble assez important de ne pas avoir une vision trop anthropocentrée des choses, ni même de la définition de la vie. La question de dire, il y a beaucoup de planètes, donc il y a probablement de la vie, parce que nous, on est de la vie sur une planète, je ne sais pas si ça tient complètement. Comme je vous l'ai dit, il y a une telle diversité que je ne sais pas si la vie, elle est forcément sur une planète, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas autour d'un trou noir ou je ne sais pas, à l'intérieur
d'autres formes de vie autour d'autres
objets. Oui, je pense qu'il faut rester très, très ouvert. Et moi, c'est cette diversité extraordinaire qui me donne vraiment confiance dans le fait que on va trouver des choses qui s'apparenteront. Est-ce qu'on pourra dire c'est la vie ou c'est pas la vie ? Je ne sais pas si on aura un jour la réponse à cette question. Mais on va voir des choses extraordinaires qui nous étonnent et qui nous rappellent peut-être qui on est. Et aussi le fait qu'il faut peut-être faire attention à préserver justement ce qu'on appelle la vie sur Terre.
C'est ça. Si elle est si précieuse que ça et si rare dans la diversité de l'univers, il faut y faire attention. Vous êtes d'ailleurs, en tant que chercheur, vous avez aussi fondé, je crois, le Labo 1.5. Vous réfléchissez à la manière de réduire l'empreinte environnementale de la recherche. Et c'est un sacré boulot, un sacré défi, notamment en astrophysique.
Dans beaucoup de domaines, donc la recherche scientifique, comme tous les domaines de la société, a une empreinte environnementale. Dans le cadre du collectif que vous avez cité, Labo 1.5, on s'est intéressé précisément à l'empreinte carbone, donc c'est-à-dire les émissions de CO2, qui sont aujourd'hui une très grande préoccupation. Et spécifiquement, l'astronomie, c'est vrai, a une empreinte carbone par individu, si on ramène ça aux individus, qui est très importante. Et elle est essentiellement due à ces très grandes infrastructures qu'on utilise, que ce soit les télescopes au sol ou les télescopes dans l'espace.
On ne parle pas des astronomes amateurs, on parle vraiment des gros télescopes, des gros instruments, comme il y en a au Chili ou comme il y en a dans l'espace avec le James Webb.
Oui, voilà, le lancement d'un télescope comme James Webb, c'est-à-dire la fabrication de la fusée et son lancement, tout ça génère des émissions qui sont très importantes. Et donc, la question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un état de fait. Donc, la première chose qu'on a voulu faire dans la Labo 1.5, c'était de mesurer les choses précisément. Parce qu'avant,
c'était un flou artistique.
Ah, c'était un flou artistique total. C'est-à-dire qu'on nous disait, ah bah oui, mais bon, un vol Paris-New York, c'est équivalent à une heure sur Skype. Bon, voilà, on avait des choses comme ça. Et en fait, on ne savait pas. Et donc, on a voulu quantifier avant de essayer de trouver des solutions. Bien ça nous sûr. Semblait important. Donc, ça, c'était la première étape qui a duré à peu près 2 ans. Et maintenant, on a une vision quand même très claire. Et d'ailleurs, c'est important de souligner le fait qu'au niveau international, la France, je pense, a été pionnière sur cette question. Donc, on a une vision très claire de quelle est l'empreinte carbone de la recherche en France et quels sont les différents domaines d'émissions, etc.
Et du coup, les leviers que l'on peut agir pour limiter cette empreinte carbone, tout en poursuivant la recherche, parce que c'est absolument extraordinaire. Mais vous avez travaillé, vous, Olivier Bernet, sur le James Webb Télescope, on l'a dit, depuis 2015. Combien de temps encore va-t-on récolter les moissons de ce télescope? Combien de temps va-t-il voyager dans l'espace comment allez-vous vous suivre toutes ces missions?
Alors, ça va durer a priori encore plus de 20 ans. Ça, ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ. On a gagné beaucoup de temps grâce à la précision du lancement par Ariane 5. Si vous voulez, quand vous placez un télescope en orbite, c'est comme une grande partie de golf. C'est-à-dire que d'abord, vous faites un coup de swing, un grand swing.
Hein,
voilà. Et plus vous arrivez près du trou, moins vous avez après de rectification à faire avec votre petite canne, là, le putter. Et bien là, c'est pareil. Donc, Ariane 5 envoie James Webb sur sa trajectoire avec la plus grande précision possible. Et après, il y a des petites corrections qu'il faut faire et elles sont faites avec le carburant qui est à bord. Moins vous avez de corrections à faire, plus vous économisez de ce carburant.
Et plus le télescope peut rester dans l'espace.
Et plus le télescope peut fonctionner pendant une période qui est longue. Et donc, au départ, c'était prévu 5 ans, hein, James Webb. Là, on pense que la durée totale de la mission va être de 26 ans. Donc, c'est un gain extraordinaire.
Et qu'est-ce que vous attendez, vous ? Alors, on ne va pas parler de la parution dans Science, mais sur quoi vous travaillez ? Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Est-ce qu'il y a là des échéances à venir pour lesquelles on pourrait vous retrouver, Pierre-Olivier Bernet ?
On travaille actuellement sur ces fameuses planètes errantes à
planètes
Toulouse.
Planètes errantes.
Oui. Il y a une grande question aussi qui est... dans les systèmes planétaires en formation que nous avons observés dans Orion, on ne voit pas de traces d'eau. On a eu énormément de difficultés à voir la présence d'eau, qui est un élément très important dans la chimie et même dans la physique de la formation des planètes. Donc nos collègues de l'Institut d'astrophysique spatiale, et en particulier une jeune étudiante, Marion Zanès, vient de publier là, cette semaine, un article où il montre que l'eau est détruite par la présence des étoiles massives, donc un effet destructeur. Donc on essaye de voir si quand même on n'arrive pas à la voir dans certains de ces systèmes planétaires en formation. Donc voilà, il y a toutes ces questions là, qui sont encore ouvertes et sur lesquelles on est là maintenant en train de travailler, alors je vous parle presque.
Et quelle est l'image qui vous fascine le plus ? Parce qu'on l'a dit, la couverture de votre ouvrage, ce sont les piliers de la tradition.
De la création.
La création, oui. C'est tellement énorme. Les piliers de la création. Et puis, il y a donc cette image fabuleuse de la nébuleuse d'Orion. Quelle est pour vous, Olivier Bernet ? Qu'est-ce que vous pourriez faire partager avant de nous quitter comme image céleste à nos auditeurs ?
Alors, je les aime toutes, évidemment, mais... Moi, une que j'aime beaucoup, c'est l'une des toutes premières qu'on a vues, c'est la nébuleuse de l'anneau austral, qui est une étoile en fin de vie. Donc là, petite dédicace à Éric Lagadec, puisque c'est les objets qu'il étudie. C'est vraiment un objet qui est absolument magnifique et j'ai été stupéfait quand je l'ai vu pour la première fois.
Petite dédicace à Éric Lagadec qui, sur notre page Facebook, vous envoie le bonjour et vous demande si vous savez, Olivier Bernet, pourquoi le Finistère est si prolixe en astrophysicien. Je ne résiste pas à vous faire passer son message, ainsi que beaucoup de ceux de nos auditeurs auxquels vous avez répondu sur la naissance et la mort des étoiles. Un grand merci à vous, d'avoir participé en direct à notre émission et à toutes ces questions vertigineuses. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Dunod, Destination Orion, voyage à bord du télescope James Webb, avec de magnifiques illustrations, et vous revenez quand vous voulez avec de nouvelles informations et de nouvelles découvertes, on aurait sûrement. À bientôt.
À bientôt.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité et pour votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, même aux planètes errantes. À l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure du prochain journal.